L'idée de ce nouveau rendez-vous est assez simple, en fait.
Tous les soirs, on vous invite dans notre salon où vous attend notre bande de passionnés.
C'est eux qui vous commenteront l'actualité culturelle et artistique du jour.
Et puis, pour plonger dans la nuit et voyager plus loin, nous recevrons des hommes et des femmes sacrément intéressants. Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs,
voilà.
Des conchiliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h. France Inter.
La différence.
Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, c'est maintenant.
Salut Daniel et aux AMG. C'était pour passer une petite annonce. Je vends une démocratie. Elle a pratiquement jamais servi, ou alors de manière représentative. Mais si on l'utilise de façon directe, elle est comme neuve. Il y a d'ailleurs tout à réinventer. Prix à négocier lors d'assemblées populaires, ou directement lors du Café Repère de Castres, au Zazoubar, mercredi 28 septembre à partir de 19h30. Claude Le Guéranic, auteur et auto-éditeur du bouquin « Liberté, égalité, foutaise », nous aidera à entrevoir ce qu'on peut en faire de notre démocratie. À mercredi.
Au cantonal du 20 mars dernier, dans le canton du petit village de Corrèze, c'est son nom, le maire socialiste et le candidat des Verts font jeu égal avec Bernadette Chirac, qui ne les bat dès le premier tour que de 2 voix. Un simple citoyen fait alors un recours au tribunal administratif qui annule le scrutin. Nouvelle élection ce dimanche 25 septembre, et là, Bernadette est élue, encore au premier tour, avec un score apparemment flatteur de 60% des voix. Très peu de médias ont analysé ce résultat. Pourtant, l'Express note ceci. Outre son tempérament de battante, Mme Chirac a bénéficié dans ce scrutin de la courtoisie notoire des relations qu'elle entretient avec le président socialiste du Conseil général, François Hollande. Explication. François Hollande, qui a été réélu en mars, préserve sa majorité au Conseil général, même si Mme Chirac garde son canton. Il décide donc de ne pas se battre contre elle. A cet effet, la Fédération socialiste locale dissuade le maire de Corrèze d'affronter de nouveau Bernadette et présente à sa place un obscur employé de mairie dont ce sera la première expérience électorale. Comme prévu, les électeurs de gauche se démobilisent et l'abstention passe de 22% à 34% en septembre. Sur les 1004 électeurs socialistes de mars, seuls 392 d'entre eux iront voter en septembre, tandis que Mme Chirac augmente son score de 39 petites voix supplémentaires. On saluera donc la science électorale de M. François Hollande, qui a su organiser la défaite de son camp avec une maestria certaine.
Bonjour, j'ai écouté Jacques Lang ce matin chez Patrick Cohen, et j'ai surtout entendu les questions que lui ont posées les auditeurs. Et il fallait s'y attendre, il y a eu l'éternel, et que pensez-vous de ces profs payés à ne rien faire, 7 heures de boulot dans l'année, vous trouvez ça normal, et c'est pas le seul. Alors oui, en effet, il existe peut-être quelques profs en France dont c'est le cas. Ils s'appellent des TZR, titulaires de zones de remplacement. Et en effet, s'ils sont nommés dans une zone où les profs ne sont pas malades, et où il y a assez de profs pour assurer toutes les heures de cours, alors ils ne vont pas, ou peu, travailler dans l'année. Mais ce genre de zone avec assez de profs pour que toutes les heures d'enseignement à assurer soient pourvues est plus que rare dans notre beau pays. Je suis TZR dans la Manche. Chaque année, pour qu'il ne me reste surtout pas une heure payée sans être travaillée, je suis affectée sur plusieurs établissements. Sur 3 collèges l'an passé. Pas une journée entière dans le même établissement. Tous les midis à manger un sandwich dans ma voiture pour me rendre d'un collège à l'autre, considérée par tous les élèves comme une simple remplaçante, notamment parce que c'est ce qu'ils entendent à la maison. Chaque année, des établissements différents, de nouveaux collègues avec qui il faut tout remettre en place pour une bonne cohésion de l'équipe pédagogique, des cours à modifier pour s'adapter au matériel disponible, de nouveaux élèves auprès desquels il faut établir son autorité, et tout ça en plus du boulot de prof classique avec les cours, les contrôles à corriger, les problèmes à gérer avec les élèves difficiles, etc. Cette année, j'ai seulement 2 établissements, un collège, un lycée, 12 classes et 7 niveaux, 7 programmes différents à préparer. Je ne suis que 18 heures devant mes élèves, mais je bosse les 5 jours de la semaine, de 8h30 à 18h, pour tenir le rythme des préparations de cours. Moi, je suis fille d'agriculteur, j'ai bossé dur pour en arriver là, et c'est grâce à l'école et à mes profs que j'ai réussi ma vie. Alors à ceux qui disent que les profs sont des feignants toujours en vacances et que c'est trop facile, et je vous assure qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende ça, à cela je répondrai 2 choses. Que le concours est ouvert à tous, et s'ils veulent autant de vacances que moi, rien ne les empêche de le passer. Et 2e chose, J'aime profondément mon boulot. Mais pendant que vous exercez le vôtre de boulot, moi je m'occupe de vos gosses. Et je peux vous dire que vu comment la plupart sont mal élevés, quand je rentre le soir, je suis totalement épuisée. À bon entendeur, salut.
Édouard, j'ai des valises. J'ai des valises avec des billets pour te faire élire. Hein ?
Non, je ne toucherai pas à ces valises parce que frauder, tout le monde a à y perdre. Ceci est un message du gouvernement. Je m'appelle Jean Dau, je suis tourneur sur bois, un bien joli métier en Ardèche, un département en lutte contre le gaz de schiste politique, financier et pétrolier. Merci pour votre émission, elle est super. À bientôt, au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Messages qui me parviennent ici à Ashkelon, Israël, non loin de la bande de Gaza, dont nous venons de sortir de la bande de Gaza, et nous remontons vers Tel Aviv. Vous avez entendu ces messages. Certains évoquent l'importante manifestation d'aujourd'hui. L'équipe de la Basse-Jissue est mobilisée et nous aurons des échos dans les jours prochains, peut-être demain ou après-demain, sur cette manifestation des enseignants. Aujourd'hui, on continue avec Karachi Gate. Karachi Gate expliqué à ma mère. La mère, c'est la mère de François Ruffin. Et ce gentil fiston qu'est François a voulu expliquer à sa maman, qui ressemble à beaucoup d'autres mamans, et pas seulement, en ce qu'elle ne comprend pas forcément tout le début de l'histoire. Et j'en faisais partie, jusqu'à ce que François nous éclaire. Aujourd'hui, deuxième volet de cette Karachi Gate. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel et à l'équipe de la Basse, j'y suis. Aujourd'hui, 27 septembre, c'est avec tristesse et émotion que j'apprends le décès de Madame Wate Mangari, de nationalité kényane, prix Nobel de la paix. C'est une personnalité hors du commun qui n'a jamais baissé les bras. Je veux rendre un hommage à son courage et à sa détermination dans sa lutte pour le droit des femmes et son action pour la sauvegarde de la planète. Son livre, « Celle qui plante les arbres », est une référence, un combat exemplaire qui mérite d'être cité à l'antenne. Il suscite profondes réflexions à l'heure où le profit est de plus en plus démesuré et destructeur. Voilà, c'est clair, de Notre-Dame de Savignac, qui est une fidèle auditrice. Au revoir.
Bonjour, je suis Paul, j'ai 75 ans, je suis professeur à la retraite et je suis outré d'entendre sur France Inter que lors de la grève d'aujourd'hui, on a mobilisé des retraités pour remplacer les instituteurs en grève. Ça, alors là, c'est une honte, mais bon sang, parlez-en, faites quelque chose. Allez, salut. J'ai plus de courage, moi. J'en ai marre.
France 3.
L'ombre d'une affaire d'État plane de plus en plus.
28 août 2009.
Sur l'attentat de Karachi.
Ce qui fait de cette affaire une affaire ou une affaire d'État, c'est l'attentat de Karachi.
8 mai 2002, 11 employés de la direction des constructions navales sont tués dans l'explosion de leur bus. Un acte longtemps attribué à Al-Qaïda, mais jamais revendiqué.
Jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à Édouard Balladur, apparemment jusqu'à Nicolas Sarkozy, jusqu'à François Léotard, on insiste très fort pour que ce contrat soit signé avec les Pakistanais.
Il pourrait en fait s'agir d'un acte de représailles de militaires pakistanais à cause de l'arrêt du versement de commissions pour l'achat de 3 sous-marins.
Charles Millon n'est pas réputé pour être un plaisantin ou pour être quelqu'un qui parle à la légère. Il nous a rapporté quand même une phrase assez forte en nous disant que dans ces affaires-là, on pouvait prendre une balle dans la tête.
Des commissions prévues lors d'un contrat signé en septembre 1994, alors qu'Édouard Balladur est Premier ministre.
Il y a eu aussi le Nicolas Sarkozy des années 90, qui s'occupait de la campagne d'Édouard Balladur, qui en tant que ministre du budget donc validait des contrats, on va dire pour le moins suspects. Et il est évident que c'est ce qui embarrasse Nicolas Sarkozy dans cette affaire, c'est que son passé, en quelque sorte, lui revienne un peu à la figure.
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. écoutez, franchement, je suis ridicule.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, Karachi Gate.
Franchement, je suis ridicule.
Flight number 2, arriving from New York.
Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Écoutez.
Franchement, harcèlement, acharnement, lynchage, franchement, taper toujours sur le même, sur le plus petit avec son gros avion, sur le plus petit qui a la plus grosse difficulté à se faire respecter, pourquoi tant d'entêtement, alors qu'il n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Franchement, écoutez, c'est ridicule. Certains ne dorment pas forcément comme auparavant en certains lieux et dans certains petits lits blancs. Aujourd'hui, pour nous expliquer soigneusement, précisément, clairement et de façon concise cette histoire, les deux auteurs du bouquin « Le contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier », Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme. En attendant, on se pose quand même pas mal de questions. Le pouvoir s'exerce-t-il toujours dans l'occultation et le secret? Y a-t-il toujours quelque chose derrière le rideau? Y a-t-il toujours un invisible Manitou? A-t-on toujours besoin de cohérence, nous autres, donner du sens au chaos, au hasard, à l'accidentel? Et ces oligarques, car il faut bien employer les mots précis, oligarques, détenteurs de richesses, mais pas seulement détenteurs de richesses, détenteurs aussi de secrets, richesses, secrets, les apanages du pouvoir et une certaine façon de dépouiller le peuple de ce que le peuple suppose être ses droits, car comment le citoyen peut-il exercer son pouvoir souverain si on lui cache tout, si on lui dit rien, s'il se dit plus on apprend, plus on ne sait rien, on nous informe vraiment sur rien. Alors on va essayer d'éviter jusqu'à 16 heures dans la base, si j'y suis, de renforcer la théorie du complot que ce genre d'affaires ne manque pas de renforcer, la conspiration, le culte, tous ceux et ceux qui disent c'est pas un hasard, tout est lié, tout ça est occulte. Beau jour pour les spécialistes de l'espionnage. Belles émissions en perspective, si ce n'est déjà fait, chez Monsieur X. Excellente émission du samedi. Les mystères, les secrets, mais aussi quand même un prodigieux et un préoccupant défi à la démocratie. Paul Valéry disait « Il y a plus faux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux ». C'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h avec François Ruffin, Karachi Gate.
Pour faire une bonne guerre, les ingrédients sont là, tu vends bombes et pansements, tu spécules les dégâts, les outils c'est pompant, du plouc et tralalère, des bons et des méchants, des balles chirurgicaires, faut choisir le pays en fonction de ce qu'il a, pétrole ou énergie, diamant. Ne plaît pas, un chef qui ne bouge pas, qu'on peut montrer du doigt pour faire jeter l'oignon. Un bon bouc émissaire, un combat héroïque. Peuple minoritaire, c'est maintenant qu'intervient pour assurer papa, virtuel ou réel. Un feuilleton cinéma, on sauve un bébé rose sur un charnier de mer en avant le départ. Des soldats déguisés,
Ma patrie est une pute qui ne change pas ses draps, qui loge en son plumard affairiste et soldat, qui paye de ses amènes les kermesses des compères de l'euro-capital. Yankee ! Et en est fier. L'Europe des vieux bourreaux lèche ses bottes d'apparat. Elle justifie mon or en mort de bon aloi. Si je paye en euros mon club génocidaire, qu'il assume son business dans une pleine lumière. L'image n'est pas le vrai, le choc n'est pas débat. La viande à vendre éclate en fontaine de nougat. Les communicateurs emballent tous les enfers et transforment en champagne la pire des pissotières. J'attrape la langue de bois, excusez-moi du peu, mais il faut qu'elle digère. Le trafic est mouvant, les guerres humanitaires, l'image n'est pas le vrai. Le choc n'est pas débat, la viande à vendre éclate. En fontaine de nougat, les communicateurs emballent tous les enfers et transforment en champagne la pire des pissotières. La pire des pissotières. La pire des pissotières. La pire des pissotières.
Alors Fabrice Lhomme, vous êtes le co-auteur avec Fabrice Arfi, tous les deux journalistes à Mediapart. Vous êtes les co-auteurs d'un livre qui s'appelle Le Contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier. Qu'est-ce que vous faisiez le 8 mai 2002? Comment vous avez reçu la nouvelle de l'attentat de Karachi?
Pour moi, l'attentat de Karachi, au départ, on va dire, c'est un fait divers qui se produit à l'étranger. Et j'en avais retenu ce qui était le message qui était diffusé dès le départ par les autorités, c'est-à-dire que c'était un attentat d'Al-Qaïda. J'en étais resté là, et dans l'idée que jamais on ne trouverait sans doute les coupables.
Fabrice Lhomme, donc, avec François Ruffin. Fabrice Lhomme est l'un des deux auteurs de ce bouquin, on vient de le dire, avec Fabrice Arfi. Ils ont travaillé 2 ans d'arrache-pied sur ce livre et sur cette enquête. Ils commencent ainsi en disant « Enquêter sur l'affaire de Karachi, c'est un peu comme essayer d'ouvrir un coffre-fort enfoui dans les sous-sols de l'État. Rares sont ceux qui veulent faire le casse avec vous. » Ils ont dû se sentir effectivement bien seuls de temps à autre, les confrères. Mais ils ne manquent pas d'optimisme, puisqu'en exergue de leur bouquin, ils citent Benjamin Franklin et Jean Racine. De Benjamin Franklin, ils citent cet aphorisme: 3 personnes peuvent partager un secret à condition que 2 d'entre elles soient mortes. Et de Jean Racine, de Britannicus, il n'est point de secret que le temps ne révèle.
Alors, quand est-ce que l'affaire prend pour vous une autre tournure ?
En fait, on s'y intéresse très tardivement. On s'y intéresse en réalité à la rentrée 2008, lorsque on va s'intéresser à un dossier qui a priori n'a rien à voir avec ça, qui est un dossier de malversation financière mettant en cause la direction des constructions navales. Et en examinant un peu le dossier judiciaire, on va tomber sur une série de documents qui apparemment n'avaient intéressé personne, et notamment pas la justice, qui évoque un certain nombre de faits, notamment l'attentat de Karachi, et qui livre une thèse qui paraît assez hallucinante, mais qui paraît aussi par ailleurs bien renseignée. Et donc on va s'intéresser à cette thèse, et c'est nous les premiers donc qui allons révéler l'existence d'une autre piste pour expliquer cet attentat. Pour l'essentiel, il y a 2 types de documents. Il y a des rapports internes à la DCN qui ont un nom de code qui est Nautilus. Ce sont des rapports qui ont été rédigés par un ancien policier de la DST qui a mené des missions pour la DCN et qui a essayé d'explorer justement les circonstances de l'attentat de Karachi. Et par ailleurs, il y a un mémorandum assez complet du directeur financier de DCN, M. Menayas, qui évoque tout un tas de contrats sulfureux passés par la DCN. Dans les 2 cas, il y a un point commun, les 2 hommes évoquent l'attentat de Karachi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, quelques semaines après l'attentat, la piste politico-financière, en fait, est déjà connue. En tout cas, elle est connue de la DCN. Et ce qui est frappant, voire choquant, c'est qu'à aucun moment, la DCN ne va informer la justice, alors que la justice française a ouvert une enquête, comme à chaque fois qu'il y a des ressortissants français qui meurent à l'étranger, il y a une enquête antiterroriste menée par le juge Bruguière, et à aucun moment, la DCN ne va communiquer ces éléments à la justice française.
Officieusement, au sommet de l'État, on sait qu'il y a une autre piste, et pourtant, officiellement, on vient dire aux victimes, aux médias, à tout le monde, c'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda.
Oui, bah, c'est-à-dire que la piste Al-Qaïda était très confortable pour tout le monde, il faut bien être honnête. Al-Qaïda, c'est une espèce de monstre insaisissable qui est par nature l'ennemi absolu de l'Occident. Et donc, évidemment, ça n'embête pas grand monde de dire que c'est Al-Qaïda.
Je ne peux pas parler sur la pertinence des éléments nouveaux.
BFM.
Je dis simplement.
11 novembre 2009.
J'évoque ce qui a été fait et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est incontestable.
Jean-Louis Bruguière.
Que l'attentat lui-même est l'œuvre d'une organisation liée à Al-Qaïda. Une organisation pakistanaise.
C'est une affaire qui apparaît complexe, incompréhensible souvent de l'extérieur. En fait, c'est qu'il y a deux affaires. Et deux affaires qui sont peut-être liées. Et
ce qui peut rendre l'affaire complexe, alors que si on prend les éléments les uns après les autres, elle ne l'est pas tant que ça. Mais ce qui rend l'affaire complexe, c'est un problème de temporalité. Puisque finalement, on va dire qu'il y a trois dates repères dans cette histoire, mais qu'on aborde dans le désordre chronologique. Pourquoi ? Parce que l'élément, on va dire, fondateur, le plus spectaculaire, ce qui fait de cette affaire une affaire ou une affaire d'État, c'est l'attentat de Karachi. Il est commis en 2002. Or, pour comprendre cette affaire, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé en 1994 et en 2008. Et donc on est en permanence dans ces trois époques, dans ces trois périodes qui s'entremêlent et qui rendent parfois la lecture de l'affaire difficile.
Donc Fabrice Lhomme, journaliste à Mediapart, co-auteur du contrat, repartons de 1994, de l'ambiance, du climat politique en France au milieu de ces années 90. En 1994, à l'été 1994, Édouard Balladur est au plus haut des sondages et il envisage une candidature à l'élection présidentielle. Avec pour rival Jacques Chirac, qui lui dispose pour ainsi dire de fonds à volonté pour mener sa campagne présidentielle, à la fois parce qu'il détient le RPR et parce qu'il détient la mairie de Paris. Et lui, Édouard Balladur, n'a pas ces renforts financiers-là pour assurer une campagne présidentielle. Donc il lui faut trouver d'autres fonds à l'époque.
Voilà, c'est effectivement l'enjeu principal de cette période, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Balladuriens ont décidé que leur poulain pouvait concurrencer Jacques Chirac et pouvait faire un candidat crédible, et bien il a fallu financer ses activités, financer la campagne. Une campagne électorale, ça coûte très cher. Et donc il y a eu cette frénésie de contrats d'armement qui ont été signés dans l'urgence par le gouvernement Balladur.
C'est-à-dire que là, pendant l'automne, au début de l'automne 1994, on voit le gouvernement Balladur, c'est-à-dire à l'époque le ministre de la Défense François Léotard, Édouard Balladur lui-même, son directeur de cabinet Nicolas Bazire, éventuellement ministre du budget Nicolas Sarkozy, s'activer pour décrocher deux contrats, notamment le contrat Sawari 2 avec les Saoudiens et le contrat Agusta avec le Pakistan. Et ce qui apparaît dans les témoignages que vous livrez, c'est que ces contrats ne sont pas du tout destinés à faire du bénéfice à l'industrie française, puisqu'au contraire, ils sont quasiment construits comme étant déficitaires. Vous rencontrez Jean-Louis Porchier, qui est contrôleur général des armées, qui a écrit un rapport spécialisé sur le coût de fabrication de l'armement, et qui a travaillé notamment sur ce contrat Agusta. Et là, il vous livre des informations qui sont assez étonnantes.
Ah bah oui, Monsieur Porchier a été très clair. Pour lui, ce contrat était, on va dire, un non-sens financier. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est de voir que le contrôleur général Porchier va alerter sa hiérarchie sur le fait que ce contrat est un non-sens financier.
Alors, c'est le contrôleur général des armées, Monsieur Jean-Louis Porchier, qui vous signale que ce contrat a coûté beaucoup d'argent à la France plutôt que de lui en rapporter. Tout le monde s'en était moqué. Sur un contrat de 5,4 milliards de francs, je chiffrais la perte à environ 1,3 milliard. Il y avait une volonté de prendre ce contrat quoi qu'il en coûte. Je me souviens qu'il y avait eu beaucoup d'interventions politiques avant la signature. Il y avait eu des pressions de Léotard, des demandes très fermes, insistantes même pour que ce contrat se fasse. Votre interlocuteur Jean-Louis Porchier s'est intéressé de près au rôle joué par le ministère du budget de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, ainsi qu'au service du Premier ministre. Bercy jouait un rôle central car il accordait la garantie de l'État. Alors qu'on pourrait dire que c'est un contrat qui concerne la DCN, la direction des constructions navales, mais là, jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à Édouard Balladur, apparemment jusqu'à Nicolas Sarkozy, jusqu'à François Léotard, on insiste très fort pour que ce contrat soit signé avec les Pakistanais, pour que ce contrat se fasse.
Alors oui, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu une pression terrible mise par les autorités politiques de l'époque pour signer ce contrat, quoi qu'il puisse en coûter.
Pour François Léotard, les autorités pakistanaises avaient mis les petits plats dans les grands.
TF1.
Après une longue négociation,
23 septembre 1994.
Après une âpre lutte avec des concurrents solides comme la Suède ou la Grande-Bretagne, la France remporte le marché et vend au Pakistan trois sous-marins d'attaque de type Agusta 90B. Montant de la vente, 5,3 milliards de francs. Qui plus est, deux sous-marins seront assemblés au Pakistan. Cela s'appelle un transfert de technologie. Bref, en rencontrant le Premier ministre Benazir Bhutto, François Léotard inaugurait une lune de miel entre les deux pays.
Je crois que dans le monde musulman, c'est certainement un exemple. Un exemple d'un islam ouvert, tolérant, qui, je crois, se tourne vers le monde avec une certaine conception de la dignité humaine, de la place de la femme dans la société, qui est très proche de ce que nous-mêmes nous proposons.
Il y a des intermédiaires qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous appelez des intermédiaires traditionnels dans les contrats d'armement, puisqu'il y a des pots de vin à verser pour obtenir des marchés. Donc ça, c'est des pots de vin à verser à l'étranger. Mais là, il y a des intermédiaires qui apparaissent plus liés au milieu politique français, qui surgissent au dernier moment lors de la signature de ce contrat. C'est-à-dire que le contrat est signé le 21 septembre 1994, et dans les semaines qui précèdent, il y a deux intermédiaires qui apparaissent comme la cerise sur le gâteau.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à peu près au mois de juillet 1994, et là, tout est bouclé quasiment. Il n'y a plus qu'à s'organiser pour signer, où est-ce qu'on va signer, à quelle date, etc. Bon. Tout est très bien. Un réseau d'intermédiaires, comme vous dites, un réseau d'intermédiaires habituel a été désigné. Charge à eux d'arroser, on va dire, les dignitaires pakistanais. Il faut savoir qu'à l'époque, la corruption de personnes à l'étranger était autorisée. Et puis, c'est là qu'il va se passer quelque chose de formidable. C'est-à-dire que courant juillet 1994, voilà qu'un duo d'intermédiaires, deux hommes d'origine libanaise, vont être imposés, il faut le dire, carrément par le ministère de la Défense, par le pouvoir politique, qui va dire à la DCN, il faut payer ces deux hommes-là. Nous, on a des témoins, des documents, encore une fois, et des témoignages directs qui nous disent, mais nous, à DCN, on ne comprenait pas. Tout était réglé. On n'avait pas besoin de... Pourquoi payer encore? Pourquoi encore verser une somme à des intermédiaires? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien. Le contrat, il est calé. Si, il faut les prendre. Et on va les prendre, parce que, évidemment, c'est l'autorité politique qui décide. Et donc, messieurs Taqieddine et El-Assir vont être rémunérés pour des prestations qui restent pour le moins mystérieuses.
Et à hauteur de dizaines de millions de francs.
Oui, c'est des sommes très très importantes. Enfin, moi, je pense que ce qui est le plus frappant là-dedans, c'est que tout indique que ces intermédiaires n'avaient pas de raison de s'intéresser à ce contrat. Ils n'avaient pas de raison de toucher de l'argent là-dessus. Le contrat, comme on l'a vu, était déjà bouclé. Tout est étrange, tout est curieux.
Là, vous rapportez les propos de Michel Ferrier, donc qui se serait confié à Jean-Louis Porchier. Michel Ferrier, qui est à l'époque directeur des technologies et des transferts sensibles du secrétariat général de la Défense nationale, donc c'est un très haut ponte de la Défense. Cela a servi, côté pakistanais, à blanchir l'argent sale, l'argent de la drogue, et côté français, à financer les politiques. C'est simple, 10% des commissions versées aux intermédiaires étaient destinées aux rétrocommissions en France, soit à peu près 50 millions de francs. La moitié de cette somme a servi à financer la campagne d'Edouard Balladur, l'autre moitié à renflouer les caisses du Parti Républicain.
Dès cette époque, il y a deux catégories. Il y a les initiés et ceux qui ne savent pas. Donc nous, on a retrouvé des gens, notamment qui travaillaient à la DCN à l'époque, et qui se souviennent d'avoir vu apparaître ces intermédiaires et qui n'ont pas vraiment compris ce qu'ils venaient faire là. Et puis il y a ceux qui savaient très bien ce qu'ils venaient faire là, qui avaient compris que ce réseau d'intermédiaires est apparu pour reverser de l'argent à des fins de financement politique illicite.
Dans le cas de ces commissions, rétrocommissions, de toutes ces des flux monétaires avec le Pakistan, il va y avoir la création notamment d'une société, offshore, qui s'appelle Aine au Luxembourg.
Oui, la société Aine, qui est donc lancée au Luxembourg, va être utilisée pour faire évacuer, on va dire, une partie des commissions litigieuses ou sulfureuses de la DCN, pour rémunérer le fameux duo d'intermédiaires d'origine libanaise, El-Assir Taqieddine. Et pourquoi on va passer par une société au Luxembourg? Sans doute pour des raisons de discrétion, puisqu'ensuite les fonds vont transiter via Aine par des paradis fiscaux pour atterrir donc dans les poches de ces intermédiaires. La question étant maintenant de trouver quelle a été la destination exacte et finale des fonds. Voilà. Et c'est là que l'enquête de la justice progresse aujourd'hui.
Concernant la société Aine, il y a eu une implication la plus directe de Nicolas Sarkozy.
Alors c'est très simple, la société Aine n'a pu être créée qu'avec l'aval du ministère du budget, donc en 1994. Qui est ministre du budget en 1994? C'est Nicolas Sarkozy. Et d'après les documents qu'on a pu avoir et les témoignages qu'on a pu recueillir, il semble que Nicolas Sarkozy se soit impliqué, on va dire personnellement, et qu'il ait insisté personnellement pour que cette société Aine soit créée. C'est ce qui a attiré, c'est moins qu'on puisse dire, l'attention de la police luxembourgeoise récemment, qui a pointé son rôle majeur et qui a fait le rapport direct entre son intervention pour la création de cette société par laquelle on transitait les commissions suspectes et son rôle dans le financement de la campagne d'Edouard Balladur.
Ces policiers Luc Jean-Bourgeois ont notamment mis au jour que quand il y a eu le choix de dissoudre la société Aine en 2006, à ce moment-là, la société Aine s'est tournée directement vers Nicolas Sarkozy, qui à l'époque devait être ministre de l'Intérieur, je crois.
Voilà, alors ça, c'est en quelque sorte, c'est bien la preuve, on va dire, que Nicolas Sarkozy n'a pas joué qu'un rôle institutionnel. Parce qu'après tout, on pourrait dire, oui, mais à l'époque, il était ministre du Budget, donc de fait, il était obligé de valider la création d'une société pour évacuer des commissions. Non, il a fait plus que ça, parce que sinon, pourquoi, quasiment, oui, plus de 10 ans plus tard, au moment de la dissolution de la société, on ferait encore appel à lui, alors que là, pour le coup, il n'a plus aucune raison d'intervenir. Il est ministre de l'Intérieur, ça n'a plus aucun sens qu'on fasse appel, entre guillemets, à ses services et pour s'occuper de sa société. Donc ça veut bien dire qu'il a un lien particulier avec la création de sa société.
Alors c'est marrant quand même de se dire que l'homme qui va dans les G20 pour réclamer la disparition des paradis fiscaux et ainsi de suite est aussi celui qui, sinon crée, du moins autorise, recommande la création d'une société offshore au Luxembourg.
Là, vous pointez un élément très important, parce qu'en fait, il y a le Nicolas Sarkozy, chef de l'État, qu'on connaît aujourd'hui, qui effectivement va dans les grands sommets internationaux, qui prend des positions logiques contre le blanchiment et les transactions financières douteuses. Mais il y a eu aussi le Nicolas Sarkozy des années 90, qui s'occupait de la campagne d'Edouard Balladur, qui en tant que ministre du Budget, donc, validait des contrats, on va dire, pour le moins suspects. Et il est évident que c'est ce qui embarrasse Nicolas Sarkozy dans cette affaire. C'est que son passé, en quelque sorte, lui revienne un peu à la figure. Or, à l'époque, il faut bien voir que M. Sarkozy, en quelque sorte, est des deux côtés du manche, puisqu'il va être le directeur de la campagne d'Edouard Balladur, et en même temps, il est ministre du Budget. Donc c'est lui qui signe les contrats d'armement, et c'est lui qui s'occupe de la campagne du Premier ministre. Donc on voit bien que si il y a eu malversation, il était aux premières loges. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'il n'ait aucun intérêt à ce que la vérité se fasse.
Écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule.
Édouard Balladur va mener campagne avec une manne financière normale, puisque bon, on a les chiffres de sa campagne, mais il dépense des dizaines de millions d'euros comme les autres, on va dire. Mais il est battu quand même. Malgré ses ressources financières, il est battu. Et au lendemain de la défaite, le 26 avril 1994, on a 10 250 000 francs qui arrivent au Crédit du Nord, mais qui arrivent non pas par des chèques, mais qui arrivent dans 4 gros sacs bien remplis, et 4 sacs remplis de coupures de 100 et 500 francs. C'est un joli cadeau de Noël quand même.
Oui, à ce que je sache, c'est du jamais vu. Et c'est non seulement étrange, mais je pense qu'on peut dire que c'est suspect, pour le moins. D'autant plus que cet argent est arrivé en coupures de 500 francs. Gros billet, neuf. Donc on se demande vraiment d'où vient cet argent. Et l'explication qui est fort embarrassée, qui est donnée aujourd'hui par Édouard Balladur, fait plutôt sourire, puisqu'il nous dit qu'en fait, c'était l'argent collecté auprès des militants dans les meetings de la campagne électorale et correspondant donc à la vente de badges, de pins ou autres t-shirts et casquettes à l'effigie de M. Balladur.
Il y a eu une Balladuromania, là, alors, qui a permis de vendre des t-shirts avec la photo d'Edouard Balladur dessus. Exactement. À hauteur de 10 millions de francs. C'est quand même pas mal.
Donc il faudrait trouver des images d'archives des journaux télévisés de l'époque ou des journaux papier, tout simplement, pour voir si effectivement les rues du pays étaient envahies de personnes arborant des t-shirts ou des casquettes à l'effigie d'Edouard Balladur, parce qu'il a fallu en vendre beaucoup quand même. Et d'autre part, ce qui est aussi intriguant, c'est que les militants à l'époque du RPR Balladurien étaient très généreux, puisque manifestement, ils achetaient des casquettes avec des billets de 500 francs.
Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, je me baladais avec un t-shirt, avec Édouard Balladur sur le t-shirt. J'étais absolument fan, quoi.
Et vous l'aviez payé 500 francs?
Exactement, j'avais les moyens. J'avais 20 ans, c'est l'âge où on est baladurien, quoi.
C'est l'âge où on est fou.
Il n'y a pas que nous qui trouvons ça étrange. Ces coupures de 100 et 500 francs qui arrivent dans 4 gros sacs au lendemain de la défaite d'Édouard Balladur. Il y a aussi les rapporteurs du Conseil constitutionnel qui doivent valider les comptes et qui, après audition d'Édouard Balladur, trouve ces explications pas du tout convaincantes et propose tout simplement le rejet du compte de campagne d'Édouard Balladur. Alors là, Édouard Balladur, il aurait été peut-être pas à la rue, mais enfin, il aurait été mal, parce que ça veut dire l'État lui aurait rien payé de sa campagne.
Absolument, et de toute façon, symboliquement, ça aurait été quand même assez fort que les comptes de M. Balladur soient rejetés au motif qu'il présentait des mouvements financiers suspects. Or, ce qui s'est passé, il y a eu manifestement un micmac au Conseil constitutionnel, puisqu'on sait aujourd'hui que les rapporteurs, ceux qui ont vraiment travaillé sur le terrain, qui ont épluché les comptes, concluaient que c'était anormal, qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle et qu'il fallait rejeter ces comptes. Et pour autant, le Conseil constitutionnel, présidé à l'époque, il faut le rappeler, par Roland Dumas, a validé...
Roland Dumas qui lui-même était pris dans une histoire de financement occulte et aussi par le biais de l'armement, puisqu'il s'agissait à l'époque des frégates de Taïwan. Donc finalement, il y avait une histoire d'armement qui était couverte par un président du Conseil constitutionnel, socialiste lui, mais également pris dans les mêmes histoires.
On n'a pas de preuve de ça, mais on a des indices, on a des éléments qui sont pour le moins troublants.
Taïwan a payé à l'époque 16 milliards de francs pour les 6 frégates,
33,
soit 5 milliards de plus que le devis initial.
6 août 2008.
Et c'est sur cette différence que le juge Renaud Van Ruymbeek a mené son enquête. Il s'agissait de savoir si une part de l'argent des contrats était revenue en France sous forme de pots de vin, ce que l'on appelle des rétrocommissions. Mais très vite, l'instruction des juges se heurte au refus des différents ministres, de gauche comme de droite, de lever le secret défense. Convaincu de l'existence de rétrocommissions, Roland Dumas s'élève contre cette loi du silence.
Les documents existent toujours. Je crois que le secrétaire d'État au budget de l'époque, qui était mon ami Michel Charras, a pris soin de les mettre à l'abri. Ce qui fait que peut-être un jour, on connaîtra la vérité.
Après cette défaite d'Édouard Balladur, c'est Jacques Chirac qui est élu président de la République. Et apparemment, l'une des mesures qu'il prend dans les mois qui suivent, avec son ministre de la Défense, Charles Millon, avec d'autres, c'est de couper les commissions concernant ce marché Agusta de sous-marins nucléaires au Pakistan.
Voilà, c'est-à-dire que quand il arrive au pouvoir, donc en mai 95, c'est quasiment, on va dire, c'est peut-être sa première décision. Il convoque Charles Millon, donc son nouveau ministre de la Défense, et il lui dit, texto, il faut s'attaquer au trésor de Balladur. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que Jacques Chirac est persuadé que sur deux contrats d'armement signés donc en fin 94, c'est-à-dire le contrat Agusta pour le Pakistan, le contrat Sawari 2 pour l'Arabie Saoudite, des sommes colossales ont été versées à des intermédiaires dont le seul but de reverser cet argent à son concurrent, ennemi ou rival, Édouard Balladur. C'est la guerre, c'est un petit peu, on va dire, règlement de compte à hockey corral. C'est-à-dire que c'est la vengeance des Chiraciens qui sont d'autant plus haineux que tout le monde est donné perdant et donc ils ont été lâchés par beaucoup de gens. Et donc là, évidemment, la revanche est assez terrible. Jacques Chirac donc, tape du poing sur la table et il dit « Je sais qu'il y a encore de l'argent à verser. » Eh bien, ça suffit comme ça. Balladur a déjà assez pris. C'est scandaleux. On arrête là et on va donc, pour reprendre une expression qui a été utilisée, on va couper le robinet, donc on va arrêter le versement de commissions, notamment au fameux duo d'intermédiaires Takieddine El Asir.
Alors, quand vous interrogez Charles Millon, il vous fait cette confidence. Quand je me suis rendu en Arabie Saoudite, l'un des dignitaires du royaume me lancera excédé. Vous vous rendez compte, vos amis, c'est les baladuriens d'avant, vos amis sont beaucoup trop gourmands sur les contrats avec les commissions, ils me donnent 8% et gardent pour eux les 10% restants. C'est n'importe quoi. Qu'ils ne reviennent jamais ici ou je leur coupe la langue.
C'est des propos assez forts. Charles Millon n'est pas réputé pour être un plaisantin ou pour être quelqu'un qui parle à la légère. Il nous a rapporté quand même une phrase assez forte en nous disant que dans ces affaires-là, on pouvait prendre une balle dans la tête. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui toujours une grosse inquiétude, une peur de parler. Mais il est clair que les confidences qu'il nous a faites confirment en tout point les informations qu'on avait, à savoir que effectivement il y avait eu, de la part du pouvoir chiracien, une volonté de prendre des mesures de rétorsion contre les baladuriens soupçonnés d'avoir effectivement signé des contrats de manière déraisonnable pour financer leurs activités politiques.
Dur, dur d'être baladur, dur, dur d'être baladur, dur, dur d'être baladur. Dur, 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 oh oui c'est dur, dur, la vie c'est dur sous Balladur. Dur, dur, c'est ragadur, la vie c'est dur sous Balladur. Tous ces connards, toutes ces enflures, les mecs on se lie à la préfecture. Au lieu de nous checker notre futur, ce sont les rois de la forfaiture. Qui s'enferment dans des affaires plus sûres, magouille, pot de vin et fausse facture. Au lieu de plonger pour du pigeon dur, ils invoquent des vices de procédure. Dur, dur, c'est ragadur, la vie c'est dur sous Balladur. Attention mesdames et messieurs, la chorale des SDS. King of Chung King a Lingaling, King of Chung King, King of Chung King a Lingaling, King of Chung King. Lass mich nicht erfrieren, admire die Tür, Balladur. S'il est vrai que les femmes les boules adorent, comme les motards aiment le bol d'or. Moi rien que de voir la tronche à Balladur, ça me donne envie d'un grand Voltaire. Même Pasquale, il a l'air plus sympa, avec sa tronche de fox à quoi dur. Que balader faux herbes et ses beugères, il sera bien mieux sur un tas d'ordures. Mais dur, 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 un tas d'ordures. Dur, dur, c'est ragadur, la vie c'est dur sous Balladur. Dur, dur, c'est
c'est giga, giga, giga dur. La vie, c'est dur sous baladure.
Vous imaginez la tête du Édouard Balladur en train d'écouter cette chanson chez lui. Enfin, c'est pas la question. La question, c'est de savoir s'il y a un lien entre les trois dates fatales 2002, 1994 et 2008. Y a-t-il un lien entre tout ce qu'on vient de décrire, entre tout ce que Francis Lhomme vient de décrire, l'un des deux auteurs de Le Contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy voudrait oublier, y a-t-il un lien entre ça et l'attentat de Karachi? C'est pas si évident que ça, même si certains le prétendent, mais il faut faire très attention. On est enclin, je parlais de la théorie du complot, à tout lier comme ça de manière un peu systématique, magique, et c'est évidemment l'impression